With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mixes ça ensemble, ça te donne les technopreneurs.
Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs.
Que vous allez bien, c'est les technopreneurs qui commencent pas mal là. On s'entend fort pas mal aussi. Et yes, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs de CJMD. Ben oui, c'est les technopreneurs, dont édition 244e émission des technopreneurs, rien de moins. On va célébrer bientôt notre 250e. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour ça, mais on va vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux. En ce 9 octobre 2022, il fait moyennement beau dehors. C'est le temps d'écouter notre show jusqu'à 15h cet après-midi. Et cette belle émission-là, ben, j'ai fait avec mon zélé de la télé préféré, M. Guillaume Bouchard. Salut,
hey,
Guillaume.
Hey, 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 hey!
C'est nouveau, ça?
Ouais, ben je vais l'arrêter, finalement.
C'est correct aussi.
Hey, mais tu, bizarrement, tu disais que c'était pas une si belle journée que ça. Moi, je trouve que c'est une belle journée d'automne.
C'est correct. Ben oui, exactement. Ben, il y avait un peu de pluie à matin. Là, ça avait l'air un peu plus triste, mais c'est correct.
Ça vient avec l'automne.
Ben oui, exactement. Mais moi, je suis plus un fanatique de l'été. Fait qu'on dirait que c'est pesant, on dirait pour moi, là, vraiment l'automne puis tout. On dirait que je prends pas plaisir, je prends pas place. Je sais pas, j'ai de la difficulté à le décrire. Mais mon zélé de la télé, qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui?
Hey, il y a tellement de stock de ce temps-ci, là, parce que là, on est à la période de l'année où est-ce que toutes les séries télé recommencent
ben
sur
oui.
les réseaux.
Ben oui.
Dans le fond, je voulais faire même un topo sur toutes les séries qui commencent ça, mais c'est vraiment long faire ça, puis je me suis comme un peu découragé, là, mm-hmm. mais j'y pense encore, là, peut-être pour la semaine prochaine, parce que là, il y a plusieurs choses dont c'est un début de fin. C'est le début de la fin de Walking Dead qui a commencé sa dernière, la troisième partie de la 11e saison la semaine dernière. Je vous parle aussi d'une série que j'écoute depuis longtemps, puis je n'en ai pas parlé. Ça s'appelle Wicked Tuna. Puis c'est une série sur Disney+, qui était sur National Geographic. Mais mon sujet principal est le documentaire qui est sorti sur Netflix qui parle de la saga GameStop.
Ah oui, parce que l'action l'avait montée. OK, ouais.
Je vous parle de tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est un beau petit documentaire là, qui est sur Netflix.
Ah, ben excellent. Ben, un petit peu plus tard dans l'émission aussi, on va avoir la chronique de notre ancien co-animateur donc, et metteur en onde, dont M. Guillaume Dionne, mais qui va venir nous jaser une fois par mois à peu près. Et là, il voulait jaser vraiment de Google Stadia parce qu'il trouvait qu'on avait été un peu bitch envers la plateforme. Puis il s'est dit, je pense qu'il voulait débattre un petit peu plus à quel point que c'était quand même une plateforme intéressante, mais qui avait quand même beaucoup de négatifs, mais il y avait beaucoup de positifs aussi dans tout ça.
C'est qu'il y avait du potentiel, ouais. mais il n'a pas été exploité.
Ben c'est exactement ça. Mais on va débattre de tout ça. Donc, on veut revenir parce que c'est la fermeture de Google Stadia qui a été annoncée. Fait qu'on revient là-dessus.
J'avais comme peur qu'il arrive tout à coup pour dire, hey là, non, vous ne commencerez pas à en parler sans que je sois
ben
là.
Écoute, on va l'attendre. On va l'attendre pour débattre. C'est un petit peu plus tard dans l'émission. Les technopreneurs, chers amis, ben à vrai dire, j'ai mon un des piliers des technopreneurs qui est à la mise en onde. C'est M. Louis-Sébastien Caron qui est là chaque dimanche. Salut Louis-Seb.
Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Très bien, toi aussi.
Oui, ben oui, ça va bien. Donc, en plus, j'ai le plaisir de faire les mots du mardi parce qu'on a fait ressortir ça. On a ressuscité ouais. les mots du mardi. Donc, vraiment, c'est une super plateforme pour connaître du nouveau beat. On fait jouer du beat qui se fait pas jouer ailleurs. Et puis, on a du gros fun noir à faire ça. Donc,
c'est pour ça que je dis bonsoir. Je suis habitué de faire ça le soir.
Exactement. Puis là, mais là, t'es dans le studio avec nous autres, là, par exemple. On est en après-midi. On est dimanche.
Vous avez Frankensteinisé cette émission-là, dans le fond.
Oui, ben, en tout cas, surtout pour le mois d'octobre. On va le dire comme ça. Donc, ben voilà. Et c'est diffusé à CGMD, bien évidemment. Le mardi, c'est à 23h. C'est tard un peu, mais vous pouvez tout apprendre ça en balado-diffusion aussi.
Vive les podcasts.
Exactement. Vive les podcasts.
Et toi, cette semaine, à Jimbo Tech?
Ben, Jimbo Tech, on va jaser de la bande-annonce de Super Mario Bros, parce que ça a été annoncé, puis là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont repartagé, qui était impressionné de tout ça, de voir une adaptation là, en dessin animé de l'univers de Super Mario Bros, mais en 3D. Là. Donc, c'est la gang de Illumination, oui. Le studio, donc ils font les Minions, qui vont réaliser tout ça. Puis on a mis du budget dans tout ça.
Oh que oui!
Donc, on en jase de ça un petit peu plus tard. Et en actualité technologique, ben écoutez, on va jaser de la conférence de Google, parce que Google a annoncé beaucoup de produits cette semaine. On va jaser de TikTok aussi. Hein? TikTok, c'est... On dirait que tout le monde connaît ça, mais à quel point que c'est populaire? À quel point que...
Mais c'est que c'est pas populaire.
C'est qui utilise ça, TikTok? Ouais, c'est ça, à part des jeunes.
C'est ça, c'est populaire, mais c'est... Peut-être pas populaire.
Ben, en tout cas, peut-être moins que bien d'autres plateformes qui existent. Puis on va parler aussi de l'Europe qui a confirmé que ça va être fini les fils propriétaires de Apple aussi. Parce qu'on arrive à fermer tout ça. Donc, c'est-à-dire Apple va devoir se conformer avec des fils USB-C. Donc, on va rejaser de ça un petit peu plus tard dans l'émission.
Mais Jimmy...
Mais quoi, Guillaume?
Qu'est-ce qu'il y a à 3 heures aujourd'hui?
À 3 heures, ben, c'est la fin des technopreneurs. Après ça, je prends mon char puis je m'en vais chez nous.
Ben non, c'est le bingo!
Ah, mais ben c'est vrai, ben oui, comment j'ai fait pour oublier ça?
T'as pas ta carte, Jimmy.
Raté côté, serait pas content.
Hein? Non. T'aurais raté ça, puis t'es à côté de la coche.
Oh!
OK, moi, je pense que je vais arrêter de dire ça. Mais ça pour dire que seulement pour 11,75$, vous pouvez participer au Super Bingo qui est diffusé tous les dimanches à CGMD dès 15h. Donc, c'est cet après-midi, vous avez encore le temps d'aller vous chercher une carte. Et pour 3 000$, jusqu'à 3 000$ en prix.
Ben oui.
Et toutes les informations, 969fm.ca.
Ben écoute, je trouve que c'est une température à bingo, là. Dehors. Ça a l'air de ça, une température à bingo. Voilà. Donc, et pour si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, ben gênez-vous pas, vous pouvez aller faire un tour sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, Les Technopreneurs. Ou si vous voulez nous texter tout au long de l'émission, ben, on accepte ça, des fameux textes. Donc, au 418-903-5969. Et sur ce, ben, on parle le show en actualité technologique. Bon, une petite chronique pour faire dépenser nos auditeurs, hein? Pourquoi pas, on aime ça, parce que là, il y a Google qui a décidé d'annoncer un paquet de nouveaux produits, et ils ont annoncé ça cette semaine, donc ils font ça une fois de temps en temps, une espèce de petit keynote là, qui présente qu'est-ce qu'on va consommer comme produit Android. Si vous n'êtes pas vendu par la pomme, hein, parce qu'on s'entend que Apple dans son écosystème, a des tonnes de produits à vous vendre, autant qu'à la Apple Watch, autant que des AirPods, autant que combien de tonnes de tablettes, des ordinateurs. Il n'en manque pas de produits chez Apple. Il n'en manque pas.
Des bidules pour retrouver d'autres bidules.
Oui, exactement, des AirTags. Mais à vrai dire, du côté de Google, ben là, je pense que c'était le temps qu'on ait un peu de nouveau dans les produits officialisés. Là. Donc, eux de Google, pas juste des compagnies qui vont faire des équipements sur le marché, vraiment avec le système d'exploitation Android. Donc, qu'est-ce qu'on annonce? Bon, on annonce une nouvelle montre. Donc, la Google Pixel Watch, qui va être enfin la vraie première montre intelligente que Google fait, mais avec le meilleur de Fitbit.
Mais c'est ça que j'allais demander, là. C'est la première fois que Google fait une montre, là.
Ben, à vrai dire, oui, officiel, comme ça, oui.
Et qui n'est pas une montre faite par un autre fabricant.
Par Samsung ou par LG, donc avec le logiciel d'exploitation qui s'appelle Wear OS. Et puis là, on annonce vraiment le meilleur de Google et le meilleur de Fitbit. Donc, Fitbit, ça a été acheté par Google il y a quelques années, puis il n'y avait pas comme... merger, désolé, vraiment le drôle de terme, mais il n'y avait comme pas jumelé toutes leurs opérations ensemble, donc pour arriver à faire enfin une montre qui a le meilleur de Fitbit et le meilleur de Google. Donc, on arrive avec quelque chose de très intéressant, pas si cher que ça. On est moins cher que Apple. Donc, on commence ça à $449.99 pour le modèle Wi-Fi et Bluetooth. Et de ce côté-là, juste pour vous donner une idée, là, à peu près, tu sais, si on converge les technologies, donc c'est-à-dire si j'aurais le Pixel 7, parce qu'ils ont annoncé aussi le Pixel 7, mais le Pixel 6A ou le 6, ben avec votre montre, là, vous pourriez utiliser votre montre pour vraiment zoomer. Donc, avec l'appareil photo. Donc, je positionne mon cellulaire, je l'accote après, je sais pas, un bout de bois ou quelque chose comme ça. Et là, on se recule pour faire le selfie. Et là, j'ajuste le zoom, donc avec ma montre pour m'assurer du cadrage et puis pour prendre la photo.
C'est une fichue de bonne, un beau feature, ça, là.
Quand même, Apple n'avait pas pensé à ça,
ben,
je
c'est
pense.
Ça que j'allais dire. C'est pas disponible chez Apple.
Non, exactement. Donc, des trucs comme ça. Et puis, bien évidemment, on voulait vendre vraiment le fait que c'est Fitbit. Qui propulse le côté entraînement. Pourquoi? Ben parce que Fitbit est comme le leader actuellement, donc dans la précision, aussi dans la qualité de leurs produits, puis aussi vraiment tout ce qui est le dynamisme, je pourrais dire, de vraiment du logiciel d'exploitation qu'ils utilisent.
Ben, il est plus complet que même, je dirais, que ce qu'on retrouve au niveau de l'application santé d'Apple.
Oui, exactement. Donc, ils ont tout un petit coche au-dessus, puis là, c'est rendu que ça appartient à Google. Et là, on a décidé de tout converger ça dans la Google Pixel Watch, qui est disponible en précommande et qui va être disponible, bien évidemment, là, pour Noël. Et on inclut aussi gratuitement 6 mois d'abonnement Fitbit Premium. Donc, il va vous permettre d'avoir un coach, un motivateur, pour vous, vraiment, motivé à continuer à vous entraîner. Vous n'avez pas acheté cette montre-là pour rien, hein? peut-être aussi. Le seul truc qui est peut-être pas intéressant des montres de Google actuellement et de Apple, c'est que j'ai la difficulté à comprendre vraiment la façon qu'ils veulent interagir avec votre sommeil. Parce qu'on veut vraiment aller chercher, on veut vraiment vous montrer à quel point que vous avez un sommeil profond, un sommeil léger, etc., etc. Mais la montre, elle dure juste 24 heures de charge. Je ne sais pas c'est quand tu as la charge, là, mais si tu ne la charges pas pendant ton sommeil...
On a fait référence...
C'est quand tu as la charge pendant que tu travailles.
Puis on a fait quelques références aux montres que nous, on a, qui est des montres Huawei qu'on avait eues avec nos P30 Pro. C'est encore la montre que j'ai, que j'utilise malgré tout avec mon iPhone 12, mais cette montre-là, je la charge une fois par semaine.
Ben oui, on la charge aux 7 jours.
Exactement. Donc là, la partie sommeil est bien mieux comptabilisée parce que inévitablement, qu'est-ce qu'on va faire quand on va recharger une montre qui dure juste 24 heures? Ben, on va la charger pendant la nuit.
Ben, c'est ça.
Mais si on la charge pendant la nuit, ben, elle peut pas valider notre sommeil.
C'est exactement ça, je me dis. Donc, c'est un peu, moi, je trouve que c'est un peu raté de ce côté-là. En tout cas, qu'on n'ait pas trouvé un mode qui fait en sorte qu'au moins la montre peut continuer une partie de la nuit ou qu'elle charge plus rapidement. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je trouve ça quand même assez décevant des deux côtés, je vous dirais. Qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre du côté de Google? Ben, on a annoncé des nouveaux téléphones.
Ouais, on est rendu au Pixel 7.
On est rendu au Pixel 7, donc qui est disponible en précommande à $799.
C'est pas très cher.
Correct, exactement. Ben, on est moins cher que Samsung pour la qualité d'appareil.
C'est ça, pour un flagship, là.
Exactement. Donc, on vend beaucoup la sécurité, la rapidité et, bien évidemment, l'appareil photo. Y a-t-il d'autres choses à vendre sur un cellulaire que l'appareil photo? Parce que durant les keynotes, les conférences, on parle de ça pendant 40 minutes et c'est tout le temps, je vous dis, là, je réécouterais des conférences d'il y a 6 ans puis je suis persuadé que c'est les mêmes phrases qu'on dit tout le temps. Oui. Il va faire des meilleures photos dans un éclairage plus sombre. Il y a un petit zoom dessus. La qualité d'image est encore meilleure.
Bien, c'est que ce que la technologie a apporté, c'est d'être en mesure de mettre plusieurs lentilles sur un même téléphone et c'est ce qui permet d'être plus polyvalent parce que comme les appareils sont pas très épais, bien, la focale peut pas être très longue, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui peut rentrer dedans. Donc, par conséquent, à cause de tout ça, c'est pour ça que les photos sont toujours plus sombres que sur un appareil avec une focale plus grande ou avec une ouverture plus grande.
Ben oui, c'est ça. Mais là, maintenant, c'est toute la technologie. C'est le processing qui est utilisé pour vraiment faire une belle photo. Et puis, ben là, de ce côté-là, ben Google, ben on fait la même chose et on fait un modèle Pro aussi. Donc, on a annoncé aussi le Pixel 7 Pro qui va se détailler $1,179 canadiens. Et selon Google, ben c'est le téléphone de Google le plus performant qui a jamais existé.
Parce que là, tu parles de processeurs. Là, sont rendus avec les nouveaux Tensor G2, là.
Oui, c'est ça, exactement. On a annoncé une suite logique en lien avec ça. Donc, c'est fait quand même c'est fabriqué en partie par Samsung. Quand même, malgré qu'ils ont dit qu'on était indépendant au complet. complet du côté de Google. Mais c'est, ça reste quand même un processeur aussi pour permettre une plus grande sécurité aussi. Et puis, ben, beaucoup de puissance. Ben, besoin de puissance, pourquoi? Ben, pour l'appareil photo. Hein. C'est l'appareil photo qui demande toute cette puissance-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des téléphones à 200$ puis il y a des téléphones à 1000$. C'est qu'il y a un bon 400-500$ que vous investissez pour l'appareil photo. Donc, si ça vous intéresse pas, ben c'est pour ça que le petit Motorola, là, le G8, il coûte 250$ avec Android. Il est quand même intéressant comme téléphone, mais les photos, le soir... avec un peu de mouvement puis tout, c'est laid, ça va être dégueulasse, vous allez toujours être déçu.
Faut toujours être réaliste là-dessus lorsqu'on on achète un appareil meilleur marché, c'est sûr qu'il coupe à quelque part. Et la première affaire qu'ils vont couper, c'est toujours l'appareil photo parce que comme tu dis, c'est ce qui coûte le plus cher autant en développement qu'en fabrication parce que là on parle de lentilles donc cause que les lentilles c'est plus fragile donc la fabrication est toujours un petit peu plus touchée.
Ben oui, exactement, puis c'est juste ça qu'ils vendent. Pendant j'écoute la conférence d'Apple puis on a parlé d'appareil photo pendant 40 minutes. Puis ils en font même pas des vrais appareils photo, eux autres.
Non.
C'est ça, c'est pas Canon, c'est pas Nikon, c'est pas Sony. Donc, c'est un peu spécial de ce côté-là. Mais à vrai dire, pour tous ceux qui sont, par exemple, intéressés pour un Pixel 7 ou un 7 Pro, ben là, ils ont une promo intéressante sur le site de Google. Puis il y a même du financement à 0% aussi qui est disponible. C'est qu'on vous donne 200$ de rabais pour un prochain achat sur le site de Google. Donc, je vous dirais, vous pourriez utiliser ça pour acheter la montre. Donc, ça vous fait 200$ de rabais pour acheter la Google Pixel Watch, qui est 450. Donc, elle vous en revient à 250$.
Ça a de l'allure, c'est à peu près le prix que valaient nos montres Huawei.
Ouais, 250. C'est ça, exactement, qui sont pas trop intelligentes. Donc, c'est pour ça que la batterie, elle dure 7 jours. Tu te demandes à quoi qu'elle sert, la montre.
Mais elle sert à ce qu'on veut principalement qu'elle serve, c'est monitorer le sommeil et des choses comme ça.
Exactement. Ça le fait bien.
Oui.
Ça le fait bien au moins. Donc, pour toutes les informations, ben, pas mal toute l'information est sur le site de Google, donc Google Store. Allez voir ça. Donc, ça peut être très, très intéressant, surtout pour ceux qui ne sont pas vendus à la pomme, là. Donc, je trouve que Google arrive avec quand même quelque chose de très, très intéressant. À rapport à peut-être même avec Samsung, c'est moins cher, puis ça a de l'air plus performant. Puis, on annonce 5 ans de mise à jour de sécurité aussi. Donc, quand même intéressant. Voilà. Et là-dessus, ben, on change de sujet complètement, mais on s'en va jaser de séries télé avec notre zélé de la télé.
Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé.
Hey, salut les gars, faut que je t'arrête de le bénir. En fait, j'ai une nouvelle série qui J'écoute pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix.
Ah oui.
Hey! Ah non, je le refais, Colin, il faut que j'arrête ça.
Mais c'est parce t'as pas compris en fait, le premier coup, on va non, te mais faire c'est comprendre d'une autre façon, Bouchard. Là.
Pour les auditeurs, je veux préciser une chose, c'est ce que faisait The Fonz dans Happy Days. Hey! Fait que bon, j'ai arrêté. Alors, hey, aujourd'hui, je vous ai parlé justement en début d'émission de la saga GameStop. Netflix, de ce temps-ci, je sais pas pourquoi, j'étais en mode beaucoup de documentaires. Donc, je regarde beaucoup de documentaires. J'en regardais souvent, mais on dirait que là, il en sort des vraiment intéressants. Et le plus récent qui est sorti sur Netflix, c'est Eat the Rich, The GameStop Saga. Alors, on parle d'une affaire, l'affaire GameStop, ça a débuté en 2020, mais c'est pas encore terminé. Donc, c'est particulier qu'on sorte un documentaire qui est très d'actualité encore aujourd'hui.
OK.
Alors, pour ceux qui, comme moi, sont très néophytes, là, quand on parle de tout ce qui est le trading, là, t'sais, les brokers, là, qu'on parle d'achat, revente d'actions, de titres à la bourse, tout ce qui concerne les marchés financiers, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Et pour ceux qui, justement, sont comme moi puis connaissent pas grand-chose, ben ça pourrait vous intéresser ou encore vous décourager complètement à l'essayer. Parce que l'histoire, en fait, raconte ce qui s'est passé en 2020. Donc, j'ai pas la date spécifique, ça a commencé vers la fin de 2020. Et donc, on est en pleine pandémie. Il y a, dans le fond, des compagnies de gestion de portefeuille aux États-Unis qu'on appelle les hedge funds. Donc, eux autres, ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils vont miser sur la ce qu'on pourrait dire, sur le fait qu'une compagnie ou un titre va perdre en valeur. Mais eux autres, ils vendent les actions avant que ça arrive, en espérant que la compagnie fasse faillite puis que les actions baissent de prix puis qu'ils puissent les racheter pour une bouchée de pain. Ce qui est arrivé en 2020, c'est que GameStop, qui est une compagnie un peu comme, pour la comparer ici, c'est un peu comme EB Games. Donc, c'est une compagnie où est-ce qu'on peut acheter ou louer ou revendre des jeux vidéo. Et puis, ça nous permet, dans ce cas-là, d'avoir des jeux pour pas trop cher, de les revendre et puis avoir accès à une grande banque de jeux.
Mm-hmm.
Donc, cette compagnie-là était un peu sur le bord, pas encore sur la faillite, mais avait une pente descendante. On est rendu en 2020. T'sais. Les jeux vidéo sont très accessibles maintenant. On les prend plus en numérique qu'en physique.
Ouais.
Donc, ce genre de compagnie-là est un peu voué à une mort. Là.
Ben là, c'est sûr que les micro-plays de Vidéotron qu'on est habitué, ça fait un petit bout qu'ils sont fermés. Là.
Absolument. On pourrait dire le gaulois de la gang, c'est EB Games. Bizarrement, un nom en anglais. Là, mais
ouais.
C'est eux autres les derniers qui font encore ce genre de système-là. Mais c'est plus eux autres achats vente, il n'y a pas vraiment de location disponible. GameStop, il y avait de la location disponible, un peu comme on avait dans tous les clubs vidéo à l'époque. Alors, dans ce contexte-là, lorsque les compagnies se sont mis à liquider sur les marchés les actions de GameStop, il y a une communauté sur Reddit. Reddit est une espèce de communauté où est-ce que c'est des forums principalement et c'est plein de groupes d'intérêt. Et là, tu peux joindre des groupes puis les gens parlent de plein de choses qui les intéressent. Et dans ce cas-ci, c'était des investisseurs en herbe. Donc, on appelle ça des investisseurs en herbe. Pourquoi? Parce que c'est pas des investisseurs à grand déploiement. Donc, ils vont acheter plusieurs milliers, milliards, millions d'actions, des trucs comme ça. Dans ce contexte-ci, c'est que lorsque cette faille-là, entre guillemets, a été révélée, ben là, il y a un paquet d'internautes par le biais de cette communauté-là qui ont dit, ben nous autres, là, on va les acheter à pas cher, les actions de GameStop. Et la logique, eh bien que lorsque la demande devient très forte avec une action, elle monte et elle monte et elle monte. Et on parle d'une action qu'ils ont achetée au départ à 4 $ et environ deux mois plus tard, elle se vendait 190 $ l'action pour une compagnie qui était sur le bord de la faillite.
Exactement, tu sais, qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de raisons de vouloir investir dans GameStop.
Non, il n'y avait aucune raison logique de le faire. C'est juste que c'est que les internautes ont compris le principe que Wall Street utilisait pour faire de l'argent. Et plusieurs de ces joueurs-là, là, parce que c'était vraiment une guerre de David contre Goliath, là, parce qu'évidemment, les petits internautes, eux autres, ils utilisaient une application qui n'est plus très utilisée maintenant, qui s'appelle Robinhood, qui permettait à des utilisateurs d'acheter des actions même lorsque les marchés étaient fermés. On pouvait le faire n'importe quel moment de la journée. Donc, ça a amené beaucoup d'investisseurs à investir massivement leur petit argent qu'ils avaient là-dedans, qu'ils ont décidé de mettre là-dedans. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont eu des profits monstres, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et c'est ce que raconte ce petit documentaire-là qui est en trois épisodes. Bien honnêtement, je l'aurais mis en un seul film parce que c'est trois épisodes d'une quarantaine de minutes, ce qui fait sensiblement un petit peu moins que deux heures.
Donc, que oui, ça aurait pu juste être un long documentaire.
Absolument, sincèrement, ça aurait bien fonctionné. Mais ça s'écoute quand même tout seul, là. Si vous aimez un peu, si vous aimez les communautés numériques, puis vous intéressez un petit peu aux investissements aussi, puis évidemment aux documentaires, ben c'est vraiment pour vous, là, ce documentaire-là, et c'est disponible sur Netflix.
Ben vraiment intéressant. Merci d'avoir décortiqué ça, parce que, tu sais, souvent, c'est de l'information, tu sais, de surface, mais tu sais, pas trop de profondeur. Puis, tu sais, souvent, des fois, tu comprends pas le pourquoi du comment. De pourquoi que ça s'est passé.
Puis là, on voit les joueurs, là, on voit les gens qui ont été impliqués directement dans la compagnie, dans la partie Reddit, dans la compagnie Robinhood qui faisait l'application, et également, dans le fond, au niveau des investisseurs, des compagnies qui ont été des joueurs clés dans toute cette chose-là. Puis là, je vous dis pas tout parce que justement, c'est vraiment intéressant de la façon que ça se déroule et c'est pas encore terminé. Donc ça,
intéressant.
Vraiment intéressant sur Netflix. Je veux vous parler aussi d'une série qui est une série de télé-réalité qui est dans une veine un peu particulière parce que c'est très détaché de ce que j'écoute normalement. Ça s'appelle Wicked Tuna. Wicked Tuna, c'est l'histoire principalement des pêcheurs de la ville de Gloucester, qui est dans le fond sur la côte est américaine. C'est au Massachusetts, donc un petit peu au nord de Boston. Et ces pêcheurs-là, ils pêchent le thon bleu. Le ton bleu, c'est un des tons qui est les plus réputés dans le monde. C'est d'ailleurs avec ça que les Japonais font la majorité de leur cuisine, les sashimi et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est sushi, tout ce qui est cuisine asiatique avec du thon, c'est le thon bleu qui est toujours favorisé parce que sa chair est très grasse. Donc, et c'est ce qu'on recherche là-dedans. Donc, la série Wicked Tuna, c'est, on voit toutes ces... Puis là, ça fait longtemps, on est rendu à 11 saisons. Dans le fond, dans la série mère, il y a une série secondaire qui s'appelle Outer Banks, qui, elle, se passe un petit peu plus au sud, en Caroline du Nord. Là, c'est des endroits où est-ce que l'océan est beaucoup moins, disons, collaborateur au niveau des pêcheurs. Donc, c'est beaucoup plus dangereux. Là, on parle souvent des vents extrêmes puis des grosses vagues pour des bateaux qui sont pas très longs. Donc, c'est souvent... je donne un exemple. Si vous vous rappelez, au début des années 2000, on avait sorti le film The Perfect Storm qui mettait en vedette George Clooney et Mark Wahlberg. Ben, c'est exactement ça. Ces pêcheurs-là, c'était des pêcheurs de Gloucester. Ils sont décédés dans la tempête, mais évidemment, ils en parlent même de temps en temps dans l'émission parce qu'il y a des pêcheurs qui les connaissaient, les pêcheurs qui sont décédés. Donc, cette émission-là, c'est maintenant disponible sur Disney+. Malheureusement, il y a juste comme les deux dernières saisons parce que, évidemment, à la base, c'est diffusé sur National Geographic Channel. Ce qui veut dire que il y a encore comme une espèce de division qui se fait au niveau de Disney là-dessus. Puis pour une raison que j'ignore, ben, ils mettent pas toutes les saisons. Donc, ça vous permet...
Ça doit être des droits d'auteur qui appartiennent à des...
Je suspecte que c'est pour les rediffusions, dans le fond, qui se vendent dans d'autres pays. Ouais. Mais bizarrement, au Canada, je pense qu'au Québec, si je me trompe pas, c'était diffusé à Z.
Ça se peut.
Dans le fond, la version française. J'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier cette information-là, mais ça reste quand même que c'est vraiment le fun à écouter. Parce que c'est quand même assez, je dirais, c'est percutant comme type de pêche parce que c'est vraiment de la pêche avec une canne à pêche, là. Évidemment, elle est énorme, puis le fil que tu suis est très, très long, mais ça reste que c'est une pêche très standard, et c'est la loi qui les oblige à le faire de cette façon-là, puisqu'ils veulent préserver la race, dans le fond, du thon bleu qui est en voie de disparition, parce que c'est depuis les années 50 qu'on a commencé à s'apercevoir qu'il y en avait de moins en moins. Donc, ils peuvent pas pêcher plus qu'un poisson par jour. Mais s'ils pêchent pas dans la journée, ben ils ont perdu une journée. Fait que c'est tout cet aspect-là que je trouve intéressant. Puis c'est de la télé-réalité, là. Donc, faut aimer le genre, il faut aimer la pêche. J'aime pas la pêche, mais j'aime ça. C'est bizarre, hein?
Ben écoute, faut croire que c'est bien fait, puis c'est entertainment.
Oui, absolument. Ouais, là, les personnages, tu sais, sont vraiment des personnages, ces gens-là. Puis c'est comme ça que la série a commencé au départ. Parce que on entendait parler de ces gens-là comme des gens très particuliers, très extravertis, qui se battaient toujours pour qui était le premier, le plus long poisson, le plus pesant, le meilleur poids, le meilleur prix au poids à la livre, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la série a commencé.
Wicked Tuna sur Disney+.
Exactement. Il y a deux séries, la deuxième étant Outer Banks, mais c'est dans certains cas les mêmes qui vont aux deux endroits, puisque ça reste quand même que c'est dans l'océan Atlantique dans les deux cas.
Et là, tu veux nous parler de Walking Dead qui termine.
Oui,
pas vite, là.
Walking Dead, donc le dimanche dernier, le 2 octobre, commençait la troisième partie de la 11e saison de Walking Dead. Et la saison étant la plus longue des précédentes. On parle cette fois-ci d'une saison de 24 épisodes qui a été séparée en trois blocs de 8. Donc, les premiers 8 avaient été diffusés à la fin de 2021. Ensuite, une partie en 2022. Et là, dans le fond, ça s'est terminé au printemps 2022. Et là, on finit avec les derniers 8 épisodes qui vont se terminer le 20 novembre prochain. Alors, cette fois-ci, on parle quand même d'une série qui est en onde depuis 2010. Donc, on parle de 12 ans. Et c'est inspiré du comic book créé par Robert Kirkman. Et ça reste encore une des séries qui, dans son genre, est la plus écoutée. Si on veut rapidement là, de l'information, là, elle a reçu 237 nominations aux Emmys et 80 gains là-dessus. Donc, c'est presque une... On parle de 1 sur 3. Ils ont gagné sur toutes les 3 nominations, ils gagnaient un des prix. Et on parle, donc à la fin, là, lorsque ça va terminer, on parle de 177 épisodes. Et on a eu des pics donc des maximums au niveau des codes d'écoute jusqu'à 18 millions de téléspectateurs. Et là, on parle pour une émission qui était sur un réseau câblé. Ouais. Réseau câblé, c'est l'équivalent ici de la télévision payante. Donc, c'est pas payant dans le même titre, mettons, que HBO ou encore...
C'est ça, c'est une chaîne spécialisée, mais tu sais, elle faisait pas partie du forfait de base. Donc, tout le monde fallait payer un petit supplément, son câble au distributeur pour avoir ça. Là.
C'est ça, puis même au départ, elle était même pas disponible ici. Il y avait même pas, dans la première saison, donc si on parle en 2010, il y avait aucun, distributeur, télédistributeur canadien qui la diffusait. Ça a été seulement à partir de la deuxième saison que Vidéotron, Bell, Rogers ont acheté les droits de diffusion par la suite.
Ben oui, puis juste pour te donner une idée, c'est même plus disponible chez Vidéotron, cette chaîne-là, EMC. Ils l'ont retiré complètement. À ma connaissance, il y avait vraiment... on demandait beaucoup d'argent du côté d'EMC pour vraiment avoir diffusé du contenu. Puis là, je pense que de ce côté-là, on voulait pas investir ça.
Je pense que la logique étant plutôt que malheureusement, le bassin de potentiel de gens qui pourraient s'abonner à la chaîne au niveau de Vidéotron est pas assez élevé puisque c'est un joueur provincial.
Ben, c'est ça.
Donc, ils vendaient le même prix qu'ils vendaient à Rogers, à Bell et tous les autres fournisseurs canadiens. C'est ça. Dans ce contexte-là, c'est tout à fait logique que Vidéotron n'avait pas... c'était pas financièrement viable parce que c'est pas la première fois. Il avait déjà retiré la chaîne.
Oui, exactement.
Et les plaintes et les désabonnements avaient été quand même assez importants qui avaient forcé la compagnie à reprendre, dans le fond, le...
Ben, ça faisait une mauvaise presse pour les deux. C'est un peu ça aussi l'affaire.
Tout le monde était perdant dans cette chose-là. Ouais. Donc, on parle de, tu sais, Walking Dead. Évidemment, c'est une... Tu sais, pour ceux-là qui connaissent pas ça, je veux dire, ceux-là qui viennent d'arriver sur la planète Terre, parce que c'est une série qu'on a... Ben, tout le monde a parlé de ça. Il y a à peu près personne que j'ai rencontré qui ne savait pas c'était quoi Walking Dead. Est-ce que tout le monde l'avait écouté? Non. Mais tout le monde savait c'était quoi. C'est une série à propos de zombies. C'est pas tout à fait ça, évidemment, parce qu'à la base, si on prend le comic book de Robert Kirkman, c'était beaucoup plus axé sur comment l'être humain se comporte dans un contexte post-apocalyptique. Et c'est vraiment là qu'on a amené beaucoup la série. Malheureusement pour moi et pour, je pense, bien d'autres, parce qu'on voit les codes d'écoute à quel point ils ont décliné dans les dernières années. Là. Parce que comme je vous parle, le pic là, d'environ de 18 millions, là, on parle de la saison, je pense que c'est la saison 7, la saison 6 dans ce coin-là, qu'on avait des codes d'écoute monstres. Et là, maintenant, on est rendu à peu près 4-5 millions. Puis ça descend toujours.
C'est ça, pour moi, c'est rien de significatif, ces codes d'écoute-là. Mais en même temps, c'est-tu bon? C'est-tu intéressant encore, Walking Dead?
Ben, c'est là où est-ce que moi, tu sais, là, faut que je fasse attention à ce que je dis pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Donc, je vais tout de suite dire spoiler alert, mais je vais être quand même encadré. Donc là, c'est qu'il est arrivé des événements, entre autres, avec les personnages, le personnage principal qui est Rick Grimes et son fils qui est Carl Grimes. Donc, ces deux personnages-là sont des personnages centraux dans le comic book. Et on a voulu se détacher un peu de ça dans la série. Et l'acteur Andrew Lincoln, qui joue Rick Grimes, c'est un Britannique. Il est un peu tanné de passer la moitié, sinon le trois quarts de son année en Géorgie, aux États-Unis, au lieu d'être avec sa famille, ses enfants, dans le fond, en Angleterre. Donc, c'est ça qui a fait que il fait plus partie de la série maintenant. Donc, ouais, je ne sais pas comment, de quelle façon c'est arrivé. C'est là où est-ce que j'encadre un peu mon spoiler. Donc, il ne fait plus partie de la série, malgré qu'ils viennent d'annoncer qu'il va avoir une série qui s'appelle Rick and Michonne. Donc, Michonne était un autre personnage et c'est elle qui a le katana. Donc, c'est un peu... on fait plein en bon français de spin-off. Donc, c'est des séries prologues qui vont se construire à la base de la série principale. Parce que la série principale, elle a quand même enfanté d'autres séries. On parle entre autres de Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond. Donc ça, dans le cas de Fear, ça se passe au début de l'éclosion, si on pourrait dire, de la pandémie qui a créé tout ça. Et dans le cas de World Beyond, ben c'est plutôt le contraire. Donc, ça se passe plusieurs années avant. Et là, on raconte l'histoire de jeunes qui n'ont connu qu'un univers de zombies. Donc, parce que Walking Dead, maintenant, n'est plus une série, mais bien un produit chez EMC. Et le scénariste principal, qui s'appelle Scott M. Gimple, est devenu le chef de produit. Donc, et c'est lui qui s'est mis à multiplier, dans le fond, les histoires. Et là, on va chercher plein de sous-personnages qu'on va développer dans d'autres séries. Puis ça s'en vient. Il y en a d'autres qui s'en viennent dans le pipeline. Là. EMC a bien l'intention de vider toutes les poches de sang, de faux sang qu'ils ont dû défrayer au fil des dernières années. Et c'est encore Greg Nicotero qui fait tous les effets spéciaux des zombies, ou du moins qui les chapeaute, en plus de réaliser plusieurs des épisodes. Donc, si vous avez la chaîne EMC, vous avez accès à tous les épisodes par le passé. Sinon, ben Netflix a les 10 premières saisons jusqu'à maintenant. La 11e n'est pas encore sortie parce qu'elle est seulement disponible sur la version payante de EMC qui s'appelle EMC+. Donc, il vous permet à ce moment-là de voir aussi tous les épisodes une semaine à l'avance. Donc, si vous avez la EMC+, vous pouvez toujours voir l'épisode, mettons comme l'épisode qui va se diffuser dimanche, ben, il est disponible depuis dimanche dernier sur EMC+. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est une partie de l'histoire de la télévision qui se termine. Tu sais, j'avais parlé de Lost la semaine passée, qu'il y avait 18 ans. Ben, c'est un peu le même principe, là, 2 semaines, qui fêtait ses 18 ans. C'est quand Lost c'est terminé, c'est comme si les gens ont fait un deuil télévisuel là, parce que c'est vraiment les personnages, on s'est attaché à eux autres pendant longtemps, puis là tout à coup ils seront plus là.
Ben oui, c'est vrai, on tourne une page.
Absolument.
On tourne une page.
C'est vraiment surtout que beaucoup de monde pensait que cette série-là pourrait jamais fonctionner dans un contexte que c'est excessivement violent. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gore, de sang, de gerbes de viscères, puis de monde qui se font tuer, puis envoyer donc. Puis c'est tout le temps de plus en plus dégoûtant. Mais les gens restent rivés quand même à cette émission-là.
Quand même, ben oui, avec tout ce temps-là. Donc, Walking Dead, c'est diffusé, c'est 10 heures?
Tous les dimanches, 21h sur les ondes de EMC.
Excellent, ben merci beaucoup, les élèves de la télé. Vraiment, super intéressant, comme d'habitude. Et sur ça, ben, on veut rappeler à nos auditeurs que c'est à 15h notre fameux bingo, comme à chaque dimanche. Donc, au total, on fait tirer 3000 piastres. Et pour ceux qui se demandent, ben aujourd'hui, j'ai-tu encore le temps de participer, là? Il me semble que j'ai rien à faire. Ben oui, vous avez le temps. Donc, c'est 11,75 chaque carte. Et pour savoir où qu'on vend tout ça, ces cartes-là, ben allez sur le site de CGMD, donc au 969fm.ca. Et sur ça, ben nous, on va aller à la pause publicitaire. Après la pause, On jase de TikTok, puis on va avoir aussi notre chroniqueur, M. Guillaume Dion, qui va venir nous parler à quel point Google Stadia, c'était une superbe plateforme.
C'était,
exactement. Et avant tout ça, ben, on entre dans mon univers musical. Et cette fois-ci, ben, je vais vous faire connaître, si vous ne le connaissez pas déjà, vous devriez, donc le groupe Hardcore canadien, donc vraiment qui est Alexis on Fire. Mais ils ont sorti un album un petit peu plus doux cette année, et il est vraiment excellent cet album-là. Et c'est la pièce « Sans soleil » que je vais vous faire découvrir. Donc voilà, donc montez le son si vous êtes dans votre char. Et restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
Shall pass the pain only. Lévis.
Vous écoutez CJMD 96.9.
Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 9 octobre 2022, les 13h48. C'est l'automne dehors. Si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, on vous incite de participer au bingo de CJMD qui commence à 15h. Eh bien, nous, les Technopreneurs, ben, on est en onde jusqu'à 15h. On va vous jaser d'actualités technologiques et on va jaser aussi de Google Stadia avec M. Guillaume Dionne qui vient faire son tour une fois de temps en temps au Technopreneur. Salut, Guillaume.
Salut!
Comment ça va?
Ça fait du bien de parler dans un beau micro.
Ben écoute, avec autant d'enthousiasme, c'est quand même assez, c'est assez spécial quand même.
C'est spécial, ouais, on va se le dire.
Un peu comme Google Stadia d'ailleurs.
Oh, oui, c'est spécial. Tu passes ça de même.
Ben non, ben non. On va en jaser tantôt.
Fais ton actualité. Là,
pas de préliminaire, rien d'autre. On fait ça comme ça, à sec.
Ben oui. Ben, à vrai dire, je veux juste inciter nos auditeurs aussi. Si vous avez une question pour nous ou un commentaire sur l'émission, ben gênez-vous pas. Hein. Vous pouvez aller sur la page Facebook Les Technopreneurs. Ou si vous préférez nous envoyer un petit texto, ben gâtez-vous. C'est au 418-903-5969. 418-903-5969. Puis effectivement, ben, avant d'aller à la chronique de M. Guillaume, ben on va aller en actualité technologique.
Je l'avais presque.
Non, tu l'avais pas.
Ben oui, parce qu'on va jaser de réseaux sociaux et on va jaser plus particulièrement de TikTok.
Ça, c'est les deux petits Suisses là, qui font dans...
Tiki-tiki-tok.
Dangeur du risque. Tiki-tiki-tok.
Non,
c'était pas ça.
TikTok, c'est pas le nom original de l'application, là.
Ben, à vrai dire, le nom de l'application, ouais, c'est TikTok.
Ça s'appelle pas Musical.ly?
Musical.ly? De quoi tu jases?
Ben, dans son monde, en fait.
Écoute. Ben, à vrai dire, TikTok, pour ben du monde, c'est du chinois. Puis à vrai dire, ben, c'est une application qui provient d'un fournisseur chinois. Donc, et aussi, ben, elle a un autre nom, la compagnie, là, c'est ByteDance. Donc, ça serait ça c'est le nom de la compagnie. Et qui est un des réseaux sociaux, là, qui est vraiment le plus aggloméré, qui est devenu le plus... On est allé chercher beaucoup de gens sur la plateforme. Bref, juste pour vous donner une idée, donc en 2 ans, on a frisé le 1 milliard d'utilisateurs mondial du côté de TikTok.
La pandémie a un petit peu eu à voir avec ça.
Oui, quand même, exactement. Qui fait en sorte que TikTok est la 6e plateforme de réseaux sociaux la plus populaire sur la planète.
C'est bizarre que tu dises 6e parce que tu sais, on a l'impression que ça semble être la plus populaire.
Ben, de ce temps-ci, ça l'est, parce qu'on parle beaucoup de l'agglomération, à quel point que est devenue une plateforme omniprésente et extrêmement utilisée par les Nord-Américains aussi. Donc, parce que je pourrais vous sortir des statistiques qui sont assez hallucinantes aussi pour les Américains qui utilisent la plateforme, mais juste pour vous donner une idée pour commencer, ça serait quoi, selon vous, la plateforme de réseaux sociaux la plus populaire?
Ben, moi, j'ai Facebook en tête, là. C'est sûr que c'est encore eux autres qui sont numéro un.
Facebook?
Les réseaux sociaux, moi.
Ouais.
Là.
Ouais. C'est laquelle TikTok. Tu penses la plus populaire?
Je dis que c'est TikTok.
Ben, à vrai dire, c'est Facebook. Donc, on est à 2,9 milliards d'utilisateurs. La deuxième.
TikTok.
Non, complètement. Je l'ai dit que c'était la sixième.
Ça doit
là,
être Instagram.
Ça doit
être Instagram.
C'est ça que j'ai pas d'écoute.
Ça doit être Instagram en deuxième, d'après moi, là.
YouTube. Et d'ailleurs, YouTube, souvent les gens ils font comme, c'est pas une plateforme de réseaux sociaux, ça, YouTube?
Ah, c'est vrai.
Ben, j'étais là, ben oui, là. C'est quelqu'un qui parle devant sa caméra puis il parle de ses passions. C'est pas un réseau social, ça. Puis tu peux commenter sur ses passions. Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais il y a quelqu'un, j'ai écouté une vidéo, quelqu'un qui répare son poêle. Oui, mais il partage la réparation de son poêle.
Tu peux liker, tu peux t'abonner. Donc, c'est vrai, c'est un réseau social.
Exactement, ben oui, absolument. WhatsApp en troisième avec 2 milliards d'utilisateurs.
Oui,
WhatsApp.
Ça. J'écoute pas, je l'ai même pas installé. C'est mon téléphone.
Instagram, 1,5 milliard d'utilisateurs. WeChat, 1,3 milliard d'utilisateurs.
WeChat. W-E-Chat?
Oui, exactement.
Ah.
C'est peut-être un réseau social de chats aussi. C'est peut-être WeChat, je sais pas.
C'est des chats, mais sur la plateforme Nintendo.
Ben, c'est peut-être ça, parce que pour bien des utilisateurs, TikTok, c'est un peu du n'importe quoi. Fait que c'est peut-être ça aussi, WeChat, je connais pas. Et TikTok, ben, on pogne le 1 milliard d'utilisateurs.
C'est quoi, c'est 3 fois moins que Facebook, là?
Oui, ben oui, on était à 3 milliards presque d'utilisateurs. Et d'ailleurs, Messenger de Facebook avait frisé à peu près les mêmes accomplissements que TikTok, c'est-à-dire qu'on avait franchi en 2 ans seulement 1 milliard d'utilisateurs, mais de la plateforme Messenger. Donc, qui est interconnecté avec Facebook, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Hein? Donc, moi, mes parents, ils avaient un compte Messenger, mais ils n'avaient pas un compte Facebook. C'était pas une nécessité. Mais là, ça le devient, par exemple, parce qu'on s'entend que Facebook sont pas fous non plus. Là. Ils savent qu'à quel point que les gens veulent utiliser Messenger. Donc, nécessairement, on les oblige à aller à travers de Facebook pour pouvoir utiliser de plus en plus Messenger. Donc, on est rendu là. Et là, en 2022, il y a beaucoup d'experts qui ont statué que les utilisateurs américains utilisaient à peu près 38 minutes par jour TikTok en rapport à 35 minutes passées sur Twitter et 31 minutes passées sur Facebook. Donc, vous comprenez pourquoi là, qu'on est vraiment content là, des accomplissements de TikTok? C'est par le nombre d'heures et de minutes qu'on passe sur la plateforme. Et là, c'est assez spécial aussi à dire vraiment la popularité de la plateforme aussi, parce qu'on a sorti des drôles de chiffres aussi du pourcentage des utilisateurs. Parce qu'on dit que sur le milliard d'utilisateurs, on se trouve à confirmer que c'est des gens de 18 à 24 ans, il y aurait 386 millions de personnes dans cette braquette-là.
Ça, c'est élevé.
De 25 à 34 ans, 282 millions. 55 ans et plus, 30 millions. Mais les jeunes sont où là-dedans? Ben, on n'a pas la statistique.
OK.
Ben, c'est parce que théoriquement, ils sont pas ouais. supposés avoir de compte.
Ben, c'est exactement ça
que
je veux
dire. La majorité des gens qui sont sur TikTok, c'est des jeunes en bas de 18 ans, on s'entend? Tu fais juste scroller et tu vois juste ça des flows. Là.
À ma connaissance, ça serait ça aussi. Exactement. Donc, c'est un peu spécial. T'sais. Mais en même temps, t'sais, les chiffres que je vois sur le web, là, vous allez voir, il y a quelques articles là, qui sont en lien avec ça. C'est difficile, on dirait, de se fier à ces statistiques-là. Est-ce que c'est biaisé? Est-ce qu'on essaye de rendre ça le plus populaire possible parce que c'est à la bourse? Puis là, c'est rendu extrêmement populaire. Mais, l'empêche, il y aurait quand même 131 millions de personnes aux États-Unis qui utiliseraient la plateforme TikTok.
Mais tu faisais référence à Twitter qui est même pas dans la liste, là. C'est bizarre, hein? Puis Twitter qui, justement, là, on a vu avec tout ce qui s'est passé avec la tentative d'achat qui va peut-être revenir de Elon Musk, là, qu'il y avait beaucoup de faux comptes.
Énormément de faux comptes.
Beaucoup trop par rapport à la valeur en bourse de l'action, les valeurs des actions de Twitter comme telles.
Exactement. Et puis en plus, tu sais, pour les gens, tu sais, exemple, des créateurs de contenu, là, vous voulez vraiment vous lancer là-dessus, tu sais, je vous dirais TikTok.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Si vous voulez faire de l'argent, c'est la pire. Là. C'est vraiment actuellement pour tenter d'aller chercher des petits revenus. Là. La plateforme peut-être la plus payante encore en ce moment, c'est YouTube. Mais elle n'est pas évidente, YouTube, pour faire de l'argent aussi. Hein.
C'est la plateforme qui va t'amener le plus facilement de la visibilité. Par contre, TikTok, si tu vas avoir du 3000 vues facile. Fait que tu sais, je pense que c'est une plateforme de marketing pour amener ton monde ailleurs quand tu l'utilises adéquatement. Mais sauf que dans un, tu sais, même là, écoute, c'est tellement rien. Écoute, ils font cuire du poulet dans du NyQuil. Puis ça rend du monde... Il y a plein de défis du genre. Moi, je comprends pas cette mode-là de défi. Ben, en plus, c'est pas vrai. C'est un peu comme les Jackass à l'époque aussi. Mais sauf que là, ça prend des ampleurs. C'est pas rapport, là. Pour vrai, là, c'est énorme. Là.
Ouais, mais dans le cas de Jackass, ils défiaient pas personne. Ils se défiaient eux autres à
c'est
faire
vrai.
Des niaiseries.
Ouais, c'est vrai. Puis ils avisaient les autres de ne pas le faire. Tandis que là, cette plateforme-là promouvait le fait de... Ah ouais, essaye de tuer un petit feu.
Ouais, en tout cas, mais c'est sûr que pour ceux qui veulent pas se lancer dans un nouveau réseau social, un peu comme moi, parce que tu sais, je sais que ça va me prendre du temps, je le sais, puis est-ce que je vais aller chercher de la pertinence avec TikTok? Je penserais pas, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà, je vous dirais, 90% des vidéos populaires de TikTok, vous les avez sur YouTube Shorts. Puis YouTube Shorts, dans le bas de votre application, vous allez le voir, c'est le deuxième bouton à partir de la gauche, c'est des vidéos que vous balayez de haut, donc pour vraiment passer d'un contenu à l'autre. Puis vous avez tout plein d'affaires, là, justement.
C'est le même
là.
Contenu. C'est le même contenu. La même chose,
quelqu'un ça, qui saute en trampoline, qui revole trop haut. Quelqu'un qui demande des questions à un Américain pour qui tu votes. Des affaires comme ça. Là,
les vidéos les plus populaires se retrouvent sur ces deux plateformes. Là,
exactement. Fait que vous n'êtes pas obligé d'aller en adopter une autre pour profiter de ça. Si le mot profiter était le bon mot utilisé. Mais bref, ben voilà, fait que c'était juste pour vous donner un portrait à peu près des réseaux sociaux puis TikTok. Puis à savoir, tu sais, avec la popularité puis surtout le fait que c'est des jeunes qui utilisent ça, je pense qu'il y avait le débat pendant les élections à savoir à quel point on devrait utiliser TikTok à des fins politiques, à des fins d'élection. Ben non. On devrait pas, c'est tout. Une plateforme pour les jeunes. Mais tu sais, est-ce que c'est pour amener les jeunes en une courte vidéo d'une minute pour présenter quelque chose? Je sais pas. Je pense qu'il existe déjà assez de plateformes pour parler de ça. Puis tu sais, pour moi, la politique puis les élections, des trucs comme ça, mais ça me serait Twitter, qui est la plateforme idéale.
Oui, il y a bien d'autres choses à régler avant de s'en aller de même
oui,
sur des plateformes.
Tellement.
Mais ils sont pas sur Discord puis tu sais sur d'autres plateformes, donc pourquoi ils seraient là-dessus? C'est ça, faut pas, dans le fond, extrapoler la politique partout dans le contexte où c'est ce que on, tout ce qu'on veut, c'est essayer de joindre du monde, mais faut joindre le monde qui vont voter, parce que si on sait que la majorité des utilisateurs de TikTok, c'est des gens qui ont en bas de 18 ans,
ben oui.
Ben, c'est pas eux autres qu'on va courtiser, là.
C'est ça, exactement. Puis en plus, la majorité, c'est les personnes plus âgées qui font le vote, souvent majoritaire. Oui. Fait que je pense pas que vous allez aller plus les motiver, ces jeunes-là, à voter sur TikTok. Mais bref, je pense que c'est un autre sujet, puis on pourrait en jaser pas mal.
OK, oui.
Mais voilà, fait qu'un petit topo global sur TikTok, qui est la sixième plateforme donc de réseaux sociaux la plus populaire, mais quand même, là, on est loin de Facebook, puis à savoir à quel point que ça va pousser comme Facebook. Bien, beaucoup d'experts qui pensent que ça va continuer, mais le temps nous le dira, puis on vous tiendra au courant aux technopreneurs en lien avec ça. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, ben là, les technopreneurs, on est live en ce moment là, sur YouTube, sur la page de CJMD, sur la page Facebook aussi des technopreneurs.
Mais pas sur TikTok.
Mais pas sur TikTok, voilà. Donc, c'était pas pour confirmer ça. Mais à vrai dire, on s'en va à la chronique de M. Guillaume Dionne.
Absurdité. Lego SpaceX Guillaume Dion de Guignidi I love you, Elon.
On entend moins parler de Elon Musk, c'est en site.
Ben, c'est normal.
Il est occupé.
T'es moins dans notre show que d'habitude. Fait, on en parle un peu moins.
Je pense qu'il est fichuement occupé de cet site là, avec Optimus qui vient de sortir, tout le kit. Là.
Son robot, puis tout. Ça, on en reparlera à un autre moment donné. Mais ouais, je n'en parle pas. Mais c'est, puis non plus, Artemis, je suis pas là pour vous parler de l'espace aujourd'hui. De toute façon, il n'y a rien qui décolle.
Oh!
Artemis, c'est Artemis. Écoute, de toute façon... D'après moi, il va rester au sol. Ça n'arrivera pas. C'est un projet qui est mort. On disait tantôt, là, la NASA peut déjà mettre une case, mettre cocher. Là, ça ne fonctionne pas, passons à autre chose. Fabriquons des calculatrices.
Et avec, mais, avec les panneaux solaires.
Bon, avec les panneaux solaires, oui, c'est important, oui. Les panneaux solaires. Il aurait dû ramener ça plus
en
vite.
Bois.
En bois. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler de Google Stadia parce que le dernier coup, vous avez simplement bâché sur Google Stadia. Écoute, je ne changerai pas la donne parce qu'on s'entend, on va partir sur une bonne base, c'est-à-dire tel Google l'a fait, c'est de la marde. Okay? C'était de la marde comme service à la base. Mais comme dans tout bon caca, il y a une utilité à ça. Ça se transforme en compost et ça devient une belle plante et
ça pousse et ça fabrique autre chose au final qui va nourrir tout le monde et tout le monde va être heureux. Mais Google Stadia, malgré le fait qu'ils ont manqué le shot avec le marketing sur tous les, toutes les sphères de leur compagnie, toute l'entreprise, en ce moment, il y a des défis pour chacun de ceux qui ont eu en possession la manette et ou ont eu des sauvegardes de jeu.
Mais tu parles de marketing. Ouais. Ils en ont pas fait. Ils l'ont pas raté. Ils en ont pas fait.
Ben, il y a quelqu'un qui était pas là, en fait. Clairement, il y avait pas, il y avait personne au marketing parce que ça n'a pas été vendu ni à leur employé. Personne n'était au courant de ce qu'il fallait qu'ils fassent, finalement. C'est ça, là, c'est cette impression-là. Puis on dirait que tout le monde a parché sur un coup de tête. Il y a quelqu'un qui s'est dit, cette technologie-là, elle est prête à l'utilisation. Faisons-le. Mais personne n'a réfléchi à ce qu'il fallait faire pour arriver à un résultat concluant. Mais par contre, Google reste quand même une sommité dans le niveau de la technologie, au niveau des serveurs, au niveau des algorithmes, au niveau de tout ce que vous faites de nos jours a probablement déjà passé dans les mains de Google où il y a un brevet quelque part qui leur appartient. Fait que, on peut pas dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est de la pure bouette. C'est pas vrai.
Ouais, mais là, je veux t'arrêter un peu parce que pour nos auditeurs là, qui savent pas c'est quoi Google Stadia, donc c'est une plateforme de jeux vidéo, mais qu'on n'avait pas besoin de console. Donc, juste avec une Chromecast puis une manette, t'es capable de jouer à plein de jeux et t'achetais les jeux en format numérique. Là. Mais là, tu possèdes pas de cartouches, pas de CD, pas de disque compact, rien. Là.
C'est ça, tout était délocalisé, décentralisé, en fait, un peu comme la crypto-monnaie peut avoir tenté de faire les choses. Ils ont tenté de changer le modèle du gaming puis de le rendre plus accessible. Par contre, c'est ça, il y a eu plusieurs ratés, mais là, si on va commencer par, en ce moment, les défis que les gens rencontrent, ceux qui ont acheté, en fait, les manettes, puis tout ça, là. Mm-hmm. Tu allais dire, oui.
Ben là, c'est parce que là, ceux-là qui ont investi du temps, tout ça, vont-tu récupérer ça? C'est
ben,
cool, hein?
On va en parler, mais d'abord, le premier outil qui te permettait de jouer à Stadia, c'était la manette. C'est la manette Stadia, malgré le fait que tu pouvais jouer sur un PC avec n'importe quel contrôleur aussi, ça te permettait de jouer sur ton téléphone, et c'est une fonctionnalité qui est tripante, parce que il n'y a pas énormément de bonnes manettes qui vont être compatibles en Bluetooth pour ton appareil. Écoute, j'en connais pas énormément non plus, j'ai pas fait de recherche. Il y en a, tu me diras. Mm-hmm. Mais c'est une bonne manette quand même, ça reste un bon produit, mais là, il se retrouve à plus être utilisable en Bluetooth carrément. Il y a des gens qui ont trouvé une solution pour pouvoir l'utiliser, jusqu'à ce que Google décide de faire une mise à jour du framework qui va permettre l'utilisation. Ce serait dans les plans, mais rien de confirmé. De toute façon, ils sont très discrets pour l'instant sur ce qui va se passer avec le futur de Stadia. Mais il y a possibilité. Fait que si tu possèdes une manette de Stadia, tu veux l'utiliser en Bluetooth sur ton PC, sache que c'est possible. Avec l'application Wireless sur Android, ça permet aussi la connexion de d'autres types de manettes qui ne seraient pas officielles pour ton PC. Donc, ça fait un lien entre les deux. C'est une façon, ça fonctionne super bien. J'ai vu la petite vidéo sur YouTube. Ça prend quelques minutes, puis c'est fait. Donc, si tu veux utiliser ta manette Stadia sur PC en Bluetooth, c'est wireless qu'il faut te chercher sur ton appareil Android.
Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir recycler la manette.
Exactement, parce que ça faisait partie des craintes, justement, des écologistes. C'est-à-dire que là, on allait augmenter le nombre de déchets technologiques d'une shot juste parce que une entreprise a fait faillite et a rendu obsolète un de ses produits qui pourrait être utilisé ailleurs. Mm-hmm. Mais là, c'est possible maintenant. Mm-hmm. Pour ce qui est de la question à Bouchard, du nombre d'heures qui peut être passé, parce que là, il y a YouTuber qui est sorti, Color.
Okay.
En fait, on dirait Willow.
Color.
Color, ben, tu écoutes, merci. Moi, je le dis en français. Hein? Couleur.
YouTube, c'est en couleur, ça? C'est en noir et blanc.
Exactement. On dirait Willow, en fait, chinois. Le
gars. Ça a l'air d'être en elfe, là, ce que tu disais, toi.
Oui, c'est ça. Ben, exactement. Ça a l'image de la face du gars que je voyais. Mais lui a passé 6000 heures, en fait, sur Red Dead Online.
OK,
puis,
ouais.
Là, en ce moment, puis il a fait le bon choix de Stadia, comme moi. Et il se retrouve dans une situation où là, il va perdre cette sauvegarde-là. Alors que c'est des jeux qui sont quand même hébergés soit par Rockstar, soit, mettons, Ubisoft pour d'autres types de jeux. Fait que là, la question se soulève pour tous les fabricants de jeux, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il y en a d'autres qui risquent de fermer. Puis le cloud gaming, c'est loin d'être fini. C'est l'avenir. Malgré le fait que là, on vient de voir que l'avenir a pris une shot, hein, ça n'a pris une pas pire parce que Google a fermé. Il reste que la console de jeux va évoluer puis on va en avoir de plus en plus de streaming. La preuve, Amazon Luna fonctionne. Donc, tu sais, mais eux, la différence, c'est qu'ils n'ont pas mis d'avant le produit, il n'est pas prêt. T'sais, ils testent.
C'est ça.
Ils ont ouvert un bassin, un petit bassin, c'est aux États-Unis seulement. Mais là, Amazon, c'est une grosse machine aussi. Là. Fait que, tu sais, Bref, ça fonctionne.
Mais tu dis ça, mais Google, c'est une grosse machine. Là. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Puis on dirait qu'ils ont décidé, on va le sacrer là, puis advienne que pourra.
Ben, à vrai dire, moi, je trouve que c'est surtout de ne pas connaître le marché du jeu vidéo. T'sais, il est bien beau que tu le connaisses pas, mais là, vraiment, de ne pas avoir fié aux expertises qu'il y avait. Puis, tu sais, de croire qu'en 2 ans, tu vas pouvoir percer réellement dans le marché du jeu vidéo, ça, faut vraiment être assez... faut être déconnecté un peu là, de la planète pour vraiment penser ça. Parce
en
que,
n'ayant pas de plan.
Tu sais, parce que, tu sais, du côté de Microsoft, ça a pris combien de temps avant vraiment, tu sais, qu'ils arrivent un peu à cheville de PlayStation. Puis même là, ils ont été obligés de réinvestir à peu près presque 100 milliards de dollars canadiens récemment pour finalement être aussi gros qu'ils voulaient être, là. Ça coûte cher, le marché du jeu vidéo.
En fait, Google a cru qu'en maîtrisant la technologie, ils pouvaient maîtriser tout le reste.
Oui, c'est, exactement.
Ils ont été au-dessus de leur ego. Tu sais, ils ont vu trop grand, puis alors qu'ils ont tout perdu de vue à ce moment-là. Mais tu sais, c'est au moins la bonne nouvelle, c'est pour les gens qui vont avoir des jeux, des sauvegardes. Il y a quand même des entreprises telles qu'Ubisoft puis Bungie qui travaillent pour le joueur, qui savent l'importance du temps que tu peux passer dans un jeu, malgré que on devrait pas avoir autant d'importance, mettre autant d'importance dans un jeu. Mm-hmm. Mais sur PC, du moins, ça risque d'être possible de transférer ses sauvegardes pour ce qui est des jeux d'Ubisoft, avec Ubisoft Connect vers PC. Bungie aussi travaille sur des solutions. Donc, ça a été au moins annoncé sur Twitter pour rassurer les gens.
Mais c'est vrai, parce que Destiny, c'était disponible sur Google Stadia avant même que PlayStation achète Destiny, exact. Ouais, c'est ça. Ben, Bungie, je veux dire, ouais.
Bungie, exact. Ouais. Fait que tout ça, donc, ça met tout ça sur la table, donc ça va accélérer, ben, toute la machine pour ce qui est des sauvegardes, la gestion des sauvegardes sur le nuage, mm-hmm. Puis aussi probablement le cross-platform, parce que ça rouvre la porte à tout ça. Là. On nous parle souvent, on peut jouer avec d'autres personnes qui sont pas sur la même plateforme que nous, mais sauf que là, la sauvegarde, ça reste coincé quelque part d'autre, ça fait pas de sens avec tout le reste. Donc, ça va être bon, on va unifier enfin, peut-être, ça va amener cette unification-là des services plus facile pour tout le monde. Donc, d'après moi, dans le futur, on va avoir un petit service de sauvegarde pour chacun des entreprises comme Bungie, Ubisoft, Rockstar et tout ça. Rockstar n'a rien dit encore pour l'instant. Par contre, c'est pas prononcé. Mmh. Risque de le faire un jour ou pas.
Ben, je pense que c'est arrivé tellement rapide parce qu'il y avait eu beaucoup de jeux qui avaient été annoncés pour Google Stadia compatibles. Et finalement, tu sais, je pense que beaucoup de développeurs qui étaient même pas au courant qu'on avait peut-être idée de vouloir fermer Google Stadia. Mais tu vois, ça a été vraiment une décision à dernière minute parce que ça devait être le chiffre. Tu sais, on devait tellement perdre d'argent avec ça. Puis on voyait pas, là. C'est sûr, pour redresser la machine, ça coûtait un investissement majeur.
Certainement.
Puis on a décidé de ne pas le faire, cet investissement-là majeur.
Mais ils vont-tu essayer de faire de, faire de l'argent un peu avec ça, parce que la technologie qu'ils ont développée, là, elle va servir. Là.
Mais c'est sûr, comme je disais, ils sont pas mauvais dans tout. La preuve, Google a déjà vendu des services de cloud gaming à AT&T, donc une entreprise de télécommunication, mm-hmm. Puis aussi à Peloton, une entreprise qui fabrique des équipements d'entraînement avec un moniteur qui te permet de te motiver ou avec des exercices. Donc, c'était déjà un service qu'ils vendaient. Donc, ils ont l'habitude de vendre leur technologie ailleurs. C'est des serveurs aussi, des serveurs de cloud gaming qu'on appelle des serveurs B2B qui sont utilisés par d'autres entreprises telles que Ubisoft pour le service d'Ubisoft Plus, telles que Luna pour Amazon. Donc, tout ce qui est jeu sur un nuage, autant pour PlayStation, c'est la même technologie. Après ça, c'est les couches qu'ils mettent par-dessus qui vont changer. Donc, tu sais, il y a un potentiel, ils vont avoir beaucoup plus de potentiel monétaire en louant leur service qu'en vendant leur propre service avec un abonnement puis en vendant des jeux à 30% de rabais sur lequel ils faisaient aucune cote. Et ce qui revient souvent, c'est qu'on comprend pas pourquoi Google a attendu aussi longtemps avant a caché, en fait, la fermeture de Stadia. Il y avait aucun intérêt réellement à faire à le cacher, mis à part si derrière et tout ça, il y avait une vente en attente, peut-être. Il y a des hypothèses qui disaient, est-ce qu'ils ont attendu pour vraiment, tu sais, recueillir soit le data complet des abonnés, puis après ça, avoir une valeur de revente, où il n'y a aucune explication. Tout est encore au niveau d'hypothèses. Il y a aussi autre chose qui sort, c'est que Ubisoft aurait peut-être, encore une fois, été avisé avant tout le monde. Bon, on est dans les spéculations, parce qu'il y avait une relation plus étroite. On pouvait acheter le service du Ubisoft Plus sur la plateforme Stadia. Donc, puis Ubisoft avait annulé juste avant la sortie, c'est d'Assassin's Creed, le nom c'est Mirage, je peux-tu?
Oui, Mirage.
Mirage. ont annulé subitement la sortie sur Stadia d'Assassin's Creed Mirage, alors qu'il allait sortir sur Luna, qu'ils ont confirmé par la suite que sur le même type de plateforme, il allait sortir. Donc, c'était pas un problème, une problématique de compatibilité. Donc, il aurait peut-être été avisé avant toutes les autres de la fermeture due à la collaboration qu'il y avait.
Ben oui.
Mais ça, au final, ultimement, là, ça va nuire à Google parce que plus jamais de leur vie, ils vont pouvoir venir dans le jeu. Tout bonnement, là, de cette façon-là, ils ne pourront plus s'imposer comme étant une entreprise qui vend du service de gaming uniquement par eux. Là.
Parce qu'ils ont perdu la confiance, dans le fond, de tout le monde dans le milieu qui voudrait en acheter. Là.
Et c'est aussi ce qu'ils font souvent avec d'autres projets. Ils ont cette fâcheuse habitude-là. Donc, c'est pas une surprise nécessairement dans l'univers des développeurs, je crois. Mais dans le jeu, ça se voyait moins. On jasait entre nous. Mais Google a souvent l'habitude de tirer à la plug sans aviser qui que ce soit, et ça fait mourir plein de projets puis plein de monde autour. Puis justement, ils perdent des partenaires précieux, puis quand ils veulent revenir quelque part, ben la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de vendre leur technologie puis de se mettre en arrière-plan puis d'attendre le reste. Fait que c'est tout ça. Ils perdent au change au final. C'est triste quand même de voir qu'une si grosse entreprise qui avait les reins aussi solides, la preuve, c'est qu'ils vont rembourser tout le monde. Il n'y a jamais...
On a été payé pour utiliser
leur plateforme. Il n'y a jamais une business qui existe, je crois, qui a fait ça dans son existence lors d'une fermeture. Fait que, tu sais...
Ben oui, ils sont super gentils parce que c'était tout numérique, pas mal, les jeux puis les achats. Hein. Fait que, tu sais, tu ne pouvais pas acheter rien en physique. Fait qu'au moins, ils remboursent la totale. Mais là, on rembourse le matériel, les jeux, les DLC, tout.
Mais s'ils nous remboursent, nous, c'est parce qu'ils remboursent aussi les éditeurs de jeux, ceux qui ont fait les jeux, parce qu'ils peuvent pas garder... Ils peuvent pas nous rembourser nous autres puis garder la part du marché. Ben, tu sais, je sais pas comment ça va marcher.
Ben,
mais
ils remboursent tout le monde. Rembourser la cote qui avait été prise.
Ouais, c'est ça.
Mais assez spécial. Et surtout aussi que, tu sais, je veux faire allumer un peu nos auditeurs, là. Tu sais, Google, là, ça a le Play Store sur Android. Ils en vendent des jeux, là. Ils vendent des abonnements là-dessus. Ils n'ont jamais rien convergé avec le Play Store, avec Stadia. Je ne comprends pas. Il y avait, mais tu sais, il y a des achievements. Je pense qu'il y avait une bonne partie des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était dans le Play Store, puis ça n'a jamais été jumelé avec Google Stadia. Puis je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ces deux plateformes-là. Puis ils ont laissé les deux de côté. Play Store, ça existe encore.
Parce qu'ils ont mal géré les attentes aussi, initialement. Exact. Parce que si ta clientèle s'attendait à avoir des applications d'Android sur une plateforme qui est censée jouer des triple A, c'est que ton message, il n'a pas passé de A à Z, là, carrément. Il n'y a rien qui a été compris. Là. On dit qu'on va t'offrir une alternative à une console de table, puis toi, tu veux avoir un jeu d'Android. C'est où mon message? C'est ça. Okay. Marketing parlant, c'est un échec. C'est mais si j'ai une chose en conclusion, pour savoir... qu'est-ce qui serait amélioré en tant que tel si jamais une plateforme du genre pour refaire surface, c'est-à-dire Luna, qui est déjà bien partie, je pense, parce qu'ils font le test en cachette, on n'entend pas trop parler, puis quand ils vont arriver, ben ça va faire mal, comme Amazon sait si bien le faire. Un catalogue de jeux suite à la hauteur de ce qui est sur le marché actuellement, de nous offrir ce qui est disponible ailleurs. T'es pas obligé d'avoir des exclusivités sur toutes, mais au moins que si je peux jouer aux jeux qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Après ça, tu peux aussi... Un produit prêt, autant la manette, la synchronisation, la performance, la consommation de données que Stadia prenait, même si j'étais là, c'est rien, 200-300 gigs pour une heure. Écoute, c'est quand même beaucoup de ressources, c'est à pas rapport. Donc, il faut optimiser ça. Je pense que Luna commence à le fait bien aussi. J'ai confiance pour vrai en Luna. Je vais essayer de mon prochain...
Es-tu disponible au Canada?
Non,
je pense pas, hein?
Non, c'est juste aux États-Unis pour l'instant. Tu vois, c'est ça, petit bassin, tranquille.
Petit bassin, il va tranquillement pas vite.
C'est pas tout le monde qui peut y accéder aussi. Il fallait que tu t'inscrives sur une liste, puis il y avait un nombre limité de places. Et puis un autre truc, ouais.
C'était une bonne idée.
Mais... oui, c'est ça. C'est l'idée de base, elle est bonne. C'est tu permets à plein de monde de pouvoir jouer à des jeux vidéo sans avoir à débourser des centaines de milliers de dollars pour y arriver. Tu sais, t'as juste à acheter le jeu ou que l'équipement que t'as besoin te coûte juste 80$ au lieu de 500-600$. Tu rends le marché du jeu plus accessible. C'est ce que j'ai trouvé le fun. C'est l'idée que j'aimais de Google. C'est rendre accessible l'inaccessible un peu à tous et avec un minimum de ressources. mais il aurait dû le tester avant. Fait que c'est ça. Fait que le cloud gaming, tu sais, j'aurais aimé ça avoir juste l'application sur ma télé, sur une télé Samsung, juste avoir l'application Stadia. Probablement que ça aurait peut-être été plus facile à gérer aussi, je sais pas, le processeur dans une télé. Aucune idée. Mais oui. Ou un dongle dédié. Arrête de me devendre une Chromecast qui est faite pour faire de la vidéo, mais qui est pas pensée pour le gaming, puis de l'adapter pour. À la limite, fais l'inverse. Développe ton produit pour me faire gamer, puis après ça, ajoute-y les fonctionnalités que les autres ont, comme toutes les autres plateformes ont pu le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui manquait à Stadia. Ils ont essayé de vouloir trop aller large puis d'utiliser tout ce qu'il y avait déjà pour pouvoir faire fonctionner la plateforme.
C'est vrai.
Donc, puis avoir une offre unique, un moment donné, ben ça vient avec un plan de match. Hein, parce que si tu veux offrir de quoi d'unique, mais que t'as rien acheté autour puis que t'achètes des studios en cours de route pour avoir une exclusivité dans 4 ans alors que ton produit devrait déjà être au point maintenant, ça marche pas. Fait que prévoir sa shot.
Mais tu sais, comme tu dis, c'est pas juste une erreur. T'sais, moi, souvent, on tente tout le temps généraliser quelque chose, c'est pas le cas, là. C'est plusieurs petites erreurs qui ont fait en sorte que là, on était rendu au point qu'il fallait refaire un investissement majeur, puis on a fait comme
non,
on va sortir une tablette à la place, une montre, on va sortir d'autres choses, mais on laisse tomber le monde du jeu vidéo. C'est quand même comme ça. De toute façon, je pense qu'il y a peut-être d'autres compagnies qui voulaient continuer à s'investir là-dedans. T'sais, peut-être que Xbox vont voir la même chose, hein, parce qu'on veut mettre beaucoup d'emphase là-dessus sur Xbox Game Pass, avec le streaming games, avec les télévisions Samsung, t'sais, des trucs que PlayStation avait déjà fait il y a 5 ans, puis que ça n'avait pas levé, puis qu'on s'investit encore là-dedans. Donc, je pense qu'il y a encore des compagnies qui vont en prendre un peu dans ce marché-là. Mais merci, Dion, pour le topo. Ça valait la peine de en jaser.
Bon, ben merci. Fait plaisir.
Exactement. Et t'es bienvenue quand tu veux au Technopreneur. Et sur ça, ben nous, on va aller à la pause publicitaire. Et après la pause, ben, à vrai dire, on a la chronique Jimbo Tech. On va jaser du film d'animation de Super Mario Bros. Et comme avant chaque pause, on rentre dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, ben c'est ma cousine France qui m'a envoyé ce petit bijou-là. C'est Blackberry Smoke. Et on est dans du blues funk country-ish, donc qui sonne vraiment bien. Donc, c'est la chanson Shaking Hands with the Holy Ghost qu'on s'en va entendre drette là au Technopreneur. Et restez là parce que nous, on est en onde jusqu'à 15h.
Ish.
Ouais, c'est ça, je me dis. Ouais. Ish. Ça, je me dis. Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 9 octobre 2022, les 14h27, et nous, on est en onde jusqu'à 15h pour vous parler d'actualités technologiques et de jeux vidéo, parce que ça va être ma chronique Jimbo Tech bientôt.
Je pensais à ça, le groupe là, Blackberry Smoke, tu sais, c'est moins le fun en français, tu sais, c'est ça fait fumer de mur.
Ouais, c'est ça exactement, c'est pour ça, tu le dis en anglais, puis ça a de l'air rock and roll. Puis tu le dis en français, puis tu fais comme « Oh, ça n'existerait pas, cette bande-là! »
Pink Floyd! Flamant rose.
Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et je voulais rappeler à nos auditeurs, si vous avez une question pour nous, ben gênez-vous pas, hein, vous pouvez venir sur la page Facebook Les Technopreneurs, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on attend vos suggestions et commentaires. Et si vous voulez, tout au long de l'émission ou pour le bingo, donc nous souhaiter la bienvenue, ou un petit bonjour, donc vous pouvez faire ça au 418-903-5969. Et voilà, et nous, on continue de diffuser sur YouTube en ce moment, là. On est-tu encore, on y va-tu? Bon, on pourrait y aller encore, Donc, on essaie d'être un petit peu plus présent sur les interwebs, comme Louis-Sébastien Caron disait tout le temps, sur les interwebs.
Ouais, mais il y en a plein d'Internet, là.
Je le sais, je le sais. Et sur ça, ben, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Oh yeah!
Rétro-technologie, jeux vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo Tech.
Je le pogne à chaque fois, le poulet.
Exactement, le poulet est tout le temps là. Il est tout le temps à mauvaise place, d'ailleurs. Sortez-moi le poulet du studio. Ça commence à être tannant, travailler avec des poulets en studio. Oh là là, en plus, ils ont des mics. ben oui, parce qu'on a jasé déjà de jeux vidéo avec M. Dion, qui voulait débattre là, de Google Stadia, à quel point que c'était une plateforme incroyable, mais qui avait eu beaucoup d'erreurs de parcours. Puis on vous a tout décortiqué ça. Mais cette semaine, il n'y a pas eu grande nouveauté dans le marché du jeu vidéo, mais il y a eu quand même une bombe, on va le dire comme ça, du fait que Nintendo a décidé de enfin se lancer dans un long métrage dans l'univers de Super Mario Bros. Oui.
Je peux pas croire qu'ils n'ont rien fait. T'sais, ils en ont fait avant, mais que ça fait longtemps qu'ils ont le, t'sais, y a le potentiel au niveau de la technologie. Ouais. Ils ont le, t'sais, ils ont les produits.
Oui, effectivement. Puis c'est vraiment spécial, hein, t'sais, parce que t'sais, tu fais comme, OK, ça a pris deux Sonic de Hedgehog avec Jim Carrey, que ça a bien mené. C'est vraiment, ça a fait beaucoup d'argent pour Paramount. Je pense qu'il n'avait jamais fait d'argent aussi qu'avec des dessins animés. Et puis là, on a Nintendo qui arrive. OK, là, Miyamoto, hein, Monsieur Sergiro Miyamoto, donc le créateur de Donkey Kong, de Mario Bros et de plusieurs franchises chez Nintendo, actuellement a comme le rôle chez Nintendo de penser outside of the box. Donc, tu sais, vraiment de penser où qu'on s'en va avec Nintendo et ses franchises. Donc, on a ouvert un parc thématique, hein, le Super Nintendo World.
Mon
donc,
cousin est allé.
Au Japon?
Oui.
Oh, wow!
C'est vraiment capoté. Il dit, c'est pas très grand, mais c'est vraiment intéressant.
Ouais, ils l'ont ouvert le plus vite possible, mais tu sais, il y a beaucoup, tu sais, il va y avoir des montagnes russes de plus qui s'ajoutent. Donc, tu sais, vraiment, le parc, dans 10 ans, ça sera pas le parc que visiter, là.
Mais c'était vraiment impressionnant.
Et il s'en en vient une édition aussi à Hollywood.
Oui,
aussi.
C'est vrai.
Donc, du côté de la Californie, là. Il va avoir aussi le parc thématique Super Nintendo World. Donc, on est de ce côté-là. Donc, M. Miyamoto, là, on veut penser à vraiment à faire découvrir encore plus qu'en dehors de l'écosystème de Nintendo, leur franchise. Et je vous dirais, PlayStation est pas mal là aussi avec ses jeux vidéo de ce temps-ci aussi, parce qu'on les sort sur PC, on les sort sur d'autres plateformes pour faire découvrir c'est quoi Uncharted, c'est quoi The Last of Us. Et là, du côté de Nintendo, ben là, le long métrage, il était temps. Parce que je pense que là...
celle-là des années 80, le live action, faut l'oublier.
Exactement. Malgré qu'il est quand même, c'était quand même pas si pire que ça non plus.
Oh non, c'était si pire.
Ah ouais, c'est si pire que ça. Écoute, il y a beaucoup de YouTubers qui vont débattre un peu de tout ça.
Ben là, il y a déjà un tollé là, qui est sorti juste avec le poster qui est sorti avant la bande-annonce,
ben oui.
Qu'on trouvait que le postérieur de Mario n'était pas assez ample.
Écoute, ça va être n'importe quoi, mais à vrai dire, qui va faire Mario? Ben c'est M. Chris Pratt. Donc, puis on voit aussi des... un peu des airs dans le Mario, tu sais, que c'est lui qui le fait.
Oui, ils ont, le visage est très modulé, là, ouais. Dans le fond, parce que Chris Pratt a quand même une grande bouche. Et là, on voit que, justement, la moustache s'est comme élargie, puis la bouche de Mario s'est élargie, là. C'est pas le seul, là, pas la seule vedette, là, d'être là. On parle de Charlie Day qui va faire Luigi.
Ben oui.
Anya Taylor-Joy qui va faire la Princess Peach. Et qui fait Bowser? Jack Black.
Puis lui aussi, on reconnaît. Oui. On reconnaît ses joues. De la façon que c'est fait, c'est spécial quand même. Donc,
et
c'est
un de tes favoris, Seth Rogen, qui fait Donkey Kong.
Je sais pas s'il va fumer du pot, par exemple. ça reste une autre affaire. Et Charlie Day, ça, c'est lui qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia.
Exactement.
Ben oui, c'est vrai. Vraiment une distribution du tonnerre pour vraiment arriver à quelque chose d'humoristique. C'est oui. Sûr qu'on s'en va là. On s'en va dans l'humour.
On a remplacé la voix de Charles Martinet, qui fait la voix de Mario depuis quoi, 35 ans, là, on parle maintenant. Là.
Ouais.
Mais il y a quand même un rôle. Il va faire une voix dans le film, mais on ne sait pas encore c'est quoi parce que sur IMDb, il n'y a pas de nom associé, mais il est là, il est dans le générique.
Mais là, c'est vrai, Charles Martinet, c'est vrai, il est au Comic-Con de Québec.
Ben oui, je l'ai vu hier quand je suis allé. Ben oui, il est en train de signer des autographes. Puis il parle français en plus, Charles Martinet, là, puis même de façon très éloquente. Puis c'était vraiment le fun de le voir avec son gilet de Mario. Il était dedans, là.
Il était dedans.
Ah oui, c'est son élément, d'après moi, voir le monde, là. Puis je l'avais vu dans une entrevue où est-ce que justement il disait, là, dis-moi, même encore aujourd'hui, je suis pas tanné de dire que le monde qui me dit, hey, t'es la voix de ma jeunesse, là, puis dis-moi, garde, dis parfait, c'était ça mon but.
C'est ça, donc on pouvait le rencontrer au Comic-Con. Donc, intéressant, vraiment. C'était la grosse vedette pas mal cette année?
C'était la tête d'affiche, là. À part la gang de Faradar, là, dans le fond de la bataille de Faradar, c'était eux autres la deuxième gang.
Donc, c'est le fun?
Oui, très, c'était, d'après moi, c'était une bonne édition parce que il y avait une file, là, il y avait une file à l'extérieur. J'avais jamais vu ça de toutes les fois que je suis allé au Comic-Con de Québec. Il n'y a jamais eu de file à l'extérieur. Il y avait une file à l'intérieur souvent parce que tout le monde arrivait du stationnement. Mais tout ce qui est sorti à date, c'est très positif parce que tout était très fluide, là. L'entrée était quand, malgré toutes les gens qu'il y avait, on a rentré quand même assez rapidement, là.
Bon, mais tant mieux si l'organisation c'était bien faite.
Vraiment.
Bon, mais excellent pour le Comic-Con. Et pour le film de Super Mario Bros., ben c'est quand qu'on va pouvoir voir ça? Ben c'est le 7 avril 2023 que ça sort en Amérique du Nord. Et c'est un peu retardé pour la sortie japonaise, donc il va être le 28 avril. Et puis, ben écoutez, c'est la gang de Illumination Entertainment qui font ça, donc c'est vraiment du côté de Universal. Et c'est les Mignons, hein, c'est ceux qui ont rendu populaire la franchise Mignon. Donc,
c'est même le même scénariste, c'est Matthew Fogel là, qui écrit le scénario de Mario aussi.
Donc, beaucoup d'expertise. Donc, on veut s'assurer de bien réussir ça. Mais à quel point qu'on va bien réussir ça? Ben c'est ça, ça va friser dans les milliards de dollars au box-office. Ça, c'est sûr. C'est qui connaît pas Super Mario Bros? C'est un film familial. Vocation familiale. Écoutez, c'est sûr. Écoute, vous êtes là pour faire du cash, là.
Écoute, tu m'en parles, puis j'ai des frissons juste à penser d'aller le voir. Quand j'ai vu les premières images de la bande-annonce, moi, j'étais vendu d'avance.
Exact. Et là, je sais pas du côté de Nintendo si on trouve ça a coûté cher, le partenariat avec Universal, mais cette semaine, on a annoncé qu'on achetait Dynamo Studio, donc une société d'animation CGI, avec l'intention de pouvoir ou de vouloir sortir peut-être du contenu supplémentaire, vraiment des franchises de Nintendo. Donc, est-ce qu'on va parler d'animé? Est-ce qu'on va parler encore là de films blockbuster encore plus grandioses? Donc, ça va où qu'on s'en va avec tout ça.
Peut-être retourner dans le live action malgré l'échec qu'il y avait eu des années 80.
Ouais, ça, je sais pas trop. Mais on voit qu'il y a vraiment un potentiel immense pour les franchises de Nintendo au grand écran. Parce que, tu sais, on s'entend que beaucoup de films se rendent au grand écran. On est beaucoup dans l'univers du jeu vidéo. Beaucoup, là.
Ça s'en vient, mais même la télévision aussi, là, avec The Last of Us sur HBO qui va sortir en 2023. Là.
Mais ça, on prend vraiment au sérieux. Là, on veut vraiment faire un produit qui n'existe pas beaucoup, quelque chose qui est gore, qui va frapper, qui va fesser dans le dash.
Absolument, mais tu sais, dans le cas de Mario, moi, ce que je trouve capoté, c'est qu'ils réutilisent toutes les recettes qui ont été gagnants dans les jeux, ouais. C'est que on mélange l'humour, on mélange l'aventure, on mélange, tu sais, toutes les couleurs sont vraiment belles, là. Vous avez vu la bande-annonce sur une télévision 4K, sincèrement, moi, ça m'a j'étais vraiment époustouflé par les beaux contrastes, puis tu sais, tous les détails étaient là. Juste là, voir, c'est niaiseux, mais de s'apercevoir que la fameuse salopette que Mario a, ben c'est en jeans. comme les plombiers. Parce que on sait que Mario, mais c'est un plombier à la base. Là.
Ouais, donc j'ai hâte de voir. Parce que là, tu sais, tous vos personnages préférés, ils ont toutes des voix. Là. Et là, c'est ça qui va être spécial, parce qu'on n'était pas habitué, hein, aux certaines petites voix, mais pas beaucoup.
Ben, on entendait justement « It's-a me, Mario! »
C'est ça, voilà. Donc, chapeau. Donc, vraiment, Universal, Nintendo et vraiment la gang de Illumination. Donc, c'est le 7 avril l'année prochaine, donc en 2023, que va être diffusé au cinéma Super Mario Bros., le film.
Penses-tu qu'ils vont grossir ses fesses? Ils vont-tu y mettre un implant fessier animé pour augmenter l'ampleur de son postérieur pour que les internautes soient contents?
Je pense pas.
Moi aussi, j'espère qu'on va dire, là, à un moment donné, on vous a sorti un beau produit parce que c'est un beau produit, sincèrement. Mm-hmm. Là, ça, c'est chialer pour chialer, rendu doute.
Ouais, ben oui, absolument. Du côté des jeux vidéo, cette semaine, comme je vous disais, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais il y a eu encore beaucoup de piratage, par exemple, pour bien des industries, pardon. Donc, c'est 2K, donc la firme qui font BioShock, NBA 2K, etc., etc. Donc, se sont fait pirater loyalement, je vous dirais, au point tel que même les gens qui travaillent pour la business se sont fait voler en partie toute leur information, dont beaucoup d'hameçonnage à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est loin d'être la première fois, mais là, ça, ils ont été vraiment obligés de le diffuser là, publiquement, que même pour des gens, là, je pense qu'il y a même des utilisateurs aussi qui ont leurs données compromises en lien avec ça. Et ils ne sont pas les seuls non plus, parce qu'il y avait Blizzard aussi cette semaine qui lançait Overwatch 2, donc vraiment qui est gratuit maintenant, qui est rendu un free-to-play game, et qu'eux ont eu même des attaques DDoS. Là. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une attaque DDoS, ben, ça vise à submerger un réseau de serveurs avec une fausse vague de trafic. Là.
Si on envoie plein de requêtes là, subites sur la base de données et ça fait souvent que les serveurs sont plus en mesure de les traiter et vont en bon français planter à cause de ça.
Exactement, trop de requêtes et c'est exactement ça qui s'est passé pour le lancement du jeu Overwatch 2. Puis là, tu fais comme, mais pourquoi vous attaquez les compagnies de jeux vidéo comme ça? C'est du divertissement, c'est du monde qui veut juste jouer à des jeux. T'es pas en train d'hacker une banque ou une grande compagnie qui est dans, tu sais, je sais pas. Là.
Ouais, mais il y en a de l'argent, là, tu sais, puis c'est ça, parce qu'après ça, c'est souvent, c'est un peu, ils prennent ces données là en otage dans certains cas, puis ils demandent une rançon compte, et s'ils n'obtiennent pas la rançon, ben ils vont la libérer sur le dark web.
Ouais, mais en même temps, des fois, il n'y a rien à comprendre non plus. Là. Une attaque des DOS là, pour des joueurs, là, tu fais comme, ouais, c'est les joueurs qui achètent les jeux, qui payent le contenu, donc tu fais juste jouer, tu fais juste chier les joueurs, tu fais pas chier les compagnies qui font le contenu.
Oui, mais par conséquent, si les joueurs sont déçus parce que la compagnie s'est faite attaquer, ben là, ils vont demander un crédit quelconque et c'est là que ça peut coûter cher à la compagnie.
Oui, puis là, le jeu est gratuit.
Ben, c'est ça le paradoxe.
Ah, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est pour ça, là, tu sais, je fais comme, trouver vos cibles, mais tu sais, il y a des pétrolières, il y a des cartels, puis tu sais, il y a bien d'autres truc là, qu'on peut pirater ou qu'on peut hacker avec une certaine vocation, si je peux le dire comme ça. Mais ben oui, fait qu'il y a eu ça. Fait que le marché un peu de jeux vidéo était un peu bouleversé de ce côté-là. Mais pour ceux qui aimeraient plus célébrer le marché du jeu vidéo, ben à vrai dire, on fait ça à Montréal à chaque année. Donc, c'est le grand rendez-vous de la Guilde du jeu vidéo de Québec. Donc, et ça de retour, c'est de retour pour une 18e année, pardon. Donc, du 19 au 22 octobre à Montréal. Et les gens, ben si on se présente là, ben, on va pouvoir essayer le prochain Call of Duty, on va pouvoir essayer le prochain Gotham Knights de Warner Brothers Montréal, on va pouvoir même essayer des jeux de Québec, des jeux des studios indépendants aussi. Donc, il y a Gearbox Studio aussi qui va être présent pour présenter The New Tales from the Borderlands. Très intéressant vraiment. Et vous avez ça à Montréal. Donc, pour ceux qui ont tout le temps voulu là, aller dans une convention de jeux vidéo pour voir du cosplay, pour voir les nouveautés, parler à des développeurs, ben, vous avez ça à Montréal, donc c'est une fois par année. Et pour tous les détails, ben, juste à chercher le grand rendez-vous de la Guilde du jeu vidéo. Puis vous allez pouvoir trouver toutes les informations en lien avec ça. Puis à la limite, on va partager sur notre page Facebook le lien en lien avec ça. Ça faisait beaucoup de liens. Voilà. Et sur ce, ben voilà, c'est ça qui complète ma chronique Jimbo Tech. Je veux rappeler à nos auditeurs, commencez à vous préparer pour le bingo. Ça commence dans 19 minutes tapant. Et vous allez pouvoir même écouter ça sur YouTube. Donc, très intéressant. Ça aussi d'avoir un visuel pour le bingo. Et sur ça, ben nous, on va aller à la pause publicitaire. Et avant chaque pause publicitaire, ben je vous le disais, hein, on rentre tout le temps dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, ben je vais vous faire découvrir. Donc, c'est un jeune rappeur québécois.
Qu'on avait reçu il y a quelques semaines.
Ben, exactement, qu'on a reçu ici en studio lors de notre lancement, de notre saison. Donc, c'est Daflo qui a sorti son nouvel extrait, donc la chanson Insane. Donc, vous seriez insane de ne pas l'écouter. Et montez le volume dans votre char parce que ça rentre dans le dash. Et restez là parce que les technopreneurs, on est encore en onde jusqu'à 15h. Donc, restez là.
Lévis 96.9
Rock et Hip-Hop.
De retour dans la fin des technopreneurs en ce dimanche 9 octobre 2022, les 14h50. Et nous, ben, il va falloir laisser le studio pour laisser place au fameux bingo de CJMD. Donc, au total, c'est 3000$ en prix qu'on fait tirer. Donc, je vous le souhaite, le 1200$. Je vous le souhaite. Puis, je vous souhaite des prix bonus. Puis, si vous voulez dire salut à la gang du bingo, ben, gênez-vous pas. Là, vous pouvez nous texter drette là au 418-903-5969. Mais voilà. Et là, il nous reste à peu près 2-3 minutes pour finir le show. Puis, il nous reste une dernière actualité technologique. Donc, on se lance là-dessus. On se lance tout de suite, même pas de jingle. Donc, en lien avec l'Europe, donc, il confirme que le câble USB-C ben, va devenir le câble universel pour les chargeurs de tous les téléphones cellulaires.
Y compris les pommes.
Exactement. Ben, je pense que c'était la pomme qui était visée du doigt en lien avec ça. Donc, parce que Apple, qui utilise toujours leur fil Lightning, donc leur technologie propriétaire. Puis je pense qu'on était rendu tanné de ça au point tel que l'Union européenne, donc on a voulu vraiment amener là une règle, des lois, donc il va vraiment obliger toutes les compagnies à utiliser le même standard, le même fil.
Bien, je pense qu'on est, comme tu dis, on est rendu là dans le contexte où, à un moment donné, il faut que les grandes compagnies comme ça comprennent que c'est pas eux autres qui mènent. Tu sais, c'est les gouvernements sont encore là pour dire, bien, c'est nous autres là, qui on va penser pour nos pour les gens qui sont là. Puis à un moment donné, pas que ça coûte toute une fortune, là, parce qu'il avait déjà changé l'iPhone. Tu sais, c'était pas ça le connecteur qu'il y avait avant. Là. Ils l'ont changé.
Ben là, à vrai dire, avec l'introduction du iPhone 5 en 2012 jusqu'au iPhone 14, ben, on est encore avec le fameux fil Lightning. Et pour Apple, ben, à vrai dire, c'est sûr qu'Apple, ils font de l'argent. Avec le fil propriétaire Lightning.
Ben oui, parce qu'ils vendent beaucoup... ça à toutes sortes de produits subsidiaires, là, de fils cheap, puis de connecteurs, puis de chargeurs cheap aussi. Là.
Ben oui, exactement. C'est tout. Simple comme ça. Puis à vrai dire, d'utiliser un autre standard, ben c'est le contraire. C'est eux qui sont obligés de débourser pour utiliser un autre standard. Et ils avaient déjà développé des technologies en lien avec ça. Donc, ils sont pas fous. Ils ont continué à utiliser leur profil propriétaire qui faisait quand même bien le travail. Mais plus maintenant. Donc, vraiment, je vous dirais, à partir, donc... de l'année en 2024. Donc, dès l'automne 2024, ça veut dire que tous les fabricants d'électronique vont devoir utiliser la forme, donc le USB-C, qui est peut-être pas la meilleure technologie de fil USB, là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de compatibilité avec USB-C. Donc, faites attention à tout ça. Il y a vraiment une compatibilité. Ça se pourrait vraiment là, que j'achète un fil USB-C pour un téléphone Samsung, puis qui ne chargerait pas à sa pleine capacité, ou un dongle USB-C qui ne fonctionnerait pas. Donc, assurez-vous de la compatibilité du modèle. Là. Exemple, si vous achetez chez Amazon ou si vous achetez un fil de chargement USB-C au dépanneur. Là.
Et faites attention aussi si vous utilisez les ports de charge sur vos ordinateurs, ils sont pas toujours hein, au bon voltage, au bon ampérage. Donc, s'assurer de le valider dans les spécifications de votre appareil.
Oui, exactement. Et moi, je trouve que c'est un petit peu trop tard, ça, par exemple, pour vraiment ce règlement-là. Puis on était très contents là, vraiment d'amener ça comme loi. Mais à vrai dire, si on parle vraiment d'écologie ou vraiment de pas laisser trop sa trace là, avec la surutilisation de fil, ben... Les chargeurs, c'est la même chose, là. Donc, on fournit plus de chargeurs quand on achète un téléphone mobile pour vraiment faire en sorte, ben, si vous en avez déjà un, utilisez celui-là. Mais en même temps, si tu n'utilises pas lui officiel, ben, ça se peut que tu brises son appareil. Fait que, tu sais, il y a tellement de trucs là-dedans qu'on pourrait parler d'obsolescence programmée puisque ça, tu sais, les chargeurs, c'est la même chose. Si tu fournis pas ton chargeur puis c'est lui que je devrais utiliser, ben, pourquoi tu le fournis pas ton chargeur? Fournis-moi ton fil, tu sais, si tu veux vraiment m'assurer que vraiment la composante, mon téléphone va bien fonctionner, fournis-moi le fil. Mais là, avec ce standard-là, vous allez comprendre que les compagnies ne fourniront même plus sûrement de fil USB-C pour laisser encore vraiment s'assurer qu'ils deviennent carboneutres, s'assurer qu'ils soient le plus écologique possible.
Ben, c'est ça le but, là. En Europe, ce qu'on veut, c'est éliminer, dans le fond, un potentiel de déchets électroniques, là.
Ah, exactement. C'est surtout ça qu'on veut faire. C'est surtout ça. Puis à vrai dire, c'est sûr de mettre une règle. On va le voir. On va le voir comment... Mais tu sais, on avait déjà commencé à ne plus fournir des fils en achetant le téléphone, en fournissant plus du tout de chargeur. Donc, nécessairement, on n'avait pas besoin de loi là, pour arriver là. Mais en même temps, les compagnies, ben là, vous le savez comme moi, ils vendent ça séparément au gros prix. Pas mieux, ben.
Non, parce qu'un chargeur, dans le fond, Apple original, je pense que c'est 45-50 pièces.
Oui, une quarantaine de dollars. Donc, puis on vous incite grandement aux technopreneurs d'utiliser les chargeurs officiels avec vos appareils. Donc, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais en tout cas, c'est emprunté. Donc, c'est sûr que vraiment Lightning, c'est chose du passé. Et c'est presque sûr que ça va être la norme mondiale pour Apple. Parce qu'on s'entend que je pense pas qu'ils vont faire du Lightning en Amérique du Nord. Et sur ce, ben nous, on va laisser place au bingo. Merci beaucoup, chers auditeurs. Comme à chaque semaine, c'est un plaisir d'animer cette émission-là. Mon nom est Jim Roy et on vous souhaite une belle après-midi sur les ondes de CJND 96.9. Et restez là parce que c'est le bingo qui suit dans 5 minutes. Ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.